Europe Midi, Romain Desarbres.
Midi et demi, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Beaucoup d'actualités, vous allez voir. 200 policiers mobilisés pour évacuer les toxicomanes autour du jardin d'Éole à Paris. On est sur place avec Caroline Baudry, on sera en direct avec un riverain également et on verra si en réalité on ne fait pas que déplacer le problème et non pas le régler. On ira dans le nord où des individus ont braqué et tué un homme de 70 ans qui était chez lui. C'est un homme jacking, les informations de Lionel Gougelot dans un instant. Éric Zemmour va rencontrer le Premier ministre hongrois à Budapest aujourd'hui. Les enjeux de cette visite avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Les déserts médicaux, tiens on en parle, ça touche vraiment tout le monde. Tout le monde, même Francis Cabrel qui lance un appel pour trouver un médecin dans son village d'Astafort, dans le Lot-et-Garonne, vous l'entendrez. Et puis le nuage issu du volcan des Canaries est arrivé en France ce matin, dans le sud de la France. Il est moins dangereux que ce qu'on craignait dans un premier temps. On sera en direct avec un météorologue.
Europe 1.
Les drogués du jardin d'Éole à Paris ont donc été évacués. Les riverains à bout vont pouvoir souffler en tout cas quelques temps. Déjà, on part sur place retrouver Caroline Baudry. Bonjour Caroline. L'opération de police est terminée, hein ?
Oui, depuis une heure environ, une centaine de personnes toxicomanes ont été évacuées par les forces de l'ordre. Ils étaient installés ici, rue Riquet, sur le trottoir, dans des tentes, des abris de fortune, le long du grillage d'un jardin public. Ils ont été placés dans des bus, 6 environ, direction place Auguste Baron, porte de la Villette. Un secteur sans riverains, aux abords immédiats, a indiqué la préfecture dans un communiqué. De l'eau et des sanitaires devraient être mis à disposition par la mairie de Paris, qui dénonce de son côté le manque de concertation. Des élus du 19e arrondissement raconte ici avoir été informé 15 minutes seulement avant le début de l'évacuation. Le premier adjoint Emmanuel Grégoire, sur place, dit vouloir trouver une solution pérenne avec l'ensemble des pouvoirs publics pour que cette évacuation ne reconstitue pas une colline du crack ailleurs dans Paris.
Merci beaucoup Caroline pour toutes ces informations. On est en direct avec un riverain, Staline Crack, c'est votre pseudonyme. Bonjour monsieur, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1.
Bonjour, merci à vous pour l'invitation.
Je disais qu'il y avait, il y a un instant que les habitants allaient pouvoir souffler quelque temps. Est-ce que c'est ça la réalité ?
La réalité, nous, on a été habitués à plusieurs évacuations déjà, que ce soit à Stalingrad ou à Éole. Nous, on attend de voir, on est un peu comme Saint-Thomas là. Effectivement, ce matin, il y a eu une grosse évacuation qui a été décidée a priori hier soir. Effectivement, les services de la mairie ont été prévenus assez tardivement. C'est une bonne chose cette évacuation parce qu'il y a eu 70 jours en présentiel de ce campement un peu sédentaire sur le pont Riquet qui a fait vivre un enfer à tout le quartier. Après, je peux ne pas me réjouir également parce qu'on a envoyé en fait une centaine de consommateurs ce matin sur une place qui est à 1,9 km du pont Riquet, qui est sur la place Auguste Banon, qui est au niveau de la porte de la Villette, qui était justement un emplacement qui était proposé par la préfecture de police il y a quelques mois, qui n'avait pas été retenu. Mais en fait, il n'y a pas d'association. Les associations ont été prévenues tardivement. Donc, est-ce que ces gens, et moi qui suis un peu proche aussi des consommateurs, ont tous dit qu'ils allaient revenir ce soir ou demain ? Donc, on attend de voir.
Vous attendez de voir. Décrivez-nous votre réalité. On dit que les riverains sont à bout, qu'ils sont excédés. Quelle est votre vie quotidienne dans ce quartier ?
La vie quotidienne, c'est-à-dire beaucoup de personnes n'ont plus d'empathie. C'est-à-dire qu'on voit une masse de gens, on fait plus la différence entre des consommateurs en détresse et des dealers. On voit une masse en fait de crackers, quoi, comme on les surnomme ici. Le quotidien, il est un peu violent parce qu'on sort, on se fait agresser. Il y a de la mendicité agressive. Il y a des vols, il y a des viols, il y a des morts. Tant du point de vue riverain que du point de vue consommateur. Hein. Nous, on est habitués à ça, en fait. On vit là-dedans. On vit en plein Paris, en 2021. Et c'est ça qui est un peu choquant.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils ne reviennent pas ?
Écoutez, pour qu'ils ne reviennent pas, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que ça, on est habitué depuis maintenant 2 ans, hein, à voir, en fait, cette espèce de patate chaude que tout le monde se refile. On déplace le problème à chaque fois. Là, par exemple, on a encore dépassé le problème. Je vous dis, c'est à 1,9 km. Oui. Là, depuis ce matin, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui n'étaient pas là ce matin pour l'évacuation et qui sont un peu perdus, qui ne savent pas où aller. Les policiers les envoient à pied sur la place Auguste Banon. Mais pour les consommateurs, par exemple, eux, ils nous disent que la meilleure façon d'arrêter le crack, c'est en fait de les éloigner de Paris.
C'est-à-dire de les envoyer en région ?
En région. Après, effectivement, c'est un peu une patate chose encore. C'est-à-dire que personne ne voudrait récupérer ça, j'imagine, dans les régions ou les départements avoisinant Paris. Mais c'est une solution, en fait. En fait, la plupart d'entre eux veulent être soignés. C'est ça qui est paradoxal. veulent être soignés, ils ont besoin d'aide. Mais en fait, tout ce qui est mis en place est un peu sous-doté, quoi.
Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné sur Europe 1 dans Europe Midi. Jacques Serey du service politique d'Europe 1. C'est Gérald Darmanin qui a annoncé cette évacuation sur Twitter. La maire de Paris la réclamait et renvoyait régulièrement la responsabilité de cette situation chaotique vers le préfet de police. Jacques, cette évacuation, très bien, mais ça ne règle pas fondamentalement le problème. Hein, on vient de le voir.
Non, ça le déplace tout simplement. Rien n'est réglé, tout est mis de côté et visiblement sans concertation entre l'État d'un côté et la mairie de Paris de l'autre. Anne Hidalgo, vous le disiez, réclamait cette évacuation depuis le printemps dernier. Jusqu'ici, la préfecture semblait faire la sourde oreille. Coup de théâtre ce matin, 3 jours seulement après la visite sur place d'Anne Hidalgo. Et l'ordre vient du ministre de l'Intérieur. La situation est grave et ne pouvait plus durer, explique Gérald Darmanin. Une action express de Beauvau pour ne pas laisser de champ à celle qui est désormais en campagne pour la présidentielle. C'est ce qui se joue finalement en amont de cette situation, alors que le problème dure depuis des mois. Alors le préfet de police est conscient que cette solution demeure temporaire. La mairie de Paris se dit, elle, soulagée, même si elle regrette que la mise à l'abri ne soit pas organisée. Ce à quoi la préfecture rétorque que la mise en place de salles d'accueil incombe à la mairie. Bref, les querelles entre administrations sont toujours les mêmes, à la seule différence que c'est un nouveau quartier qui va devoir subir cette situation.
Merci beaucoup Jacques, c'est un sujet dont on va continuer à parler évidemment. L'ex-ministre socialiste et figure de la Mitterrandie, Paul Quilès, est décédé ce matin à Paris à l'âge de 79 ans. C'est une de ses filles qu'il a annoncé. Il fut notamment ministre de l'Intérieur et de la Défense dans les années 80 et 90. Les éoliennes, elles sèment beaucoup de colère là où on veut les implanter. C'est le cas à terre, c'est le cas également en mer. On part tout de suite au Havre, où des dizaines de marins pêcheurs ont pris la mer pour aller manifester au large contre un projet industriel important d'implantation de machines, d'éoliennes, qui va nuire à la pêche, selon les manifestants. Sandrine Prioul, en direct dans Europe Midi. Bonjour Sandrine. Qu'est-ce que les marins pêcheurs avec qui vous avez pu discuter vous disent ?
Eh bien oui, écoutez, je suis montée à bord ce matin avec ces pêcheurs. Et ce qu'ils vous disent, c'est que l'éolien en mer, c'est la fausse bonne idée. Comme Alexis, qui ne comprend pas qu'on envisage d'installer 6 projets grands comme Paris, 6 projets éoliens sur précisément sa zone de pêche.
Ils vont faire ça là, ici, dans une baie de Seine qui est... Tous les juvéniles de la Manche se reproduisent ici. Ils vont massacrer tout, tout, tout. Alors déjà qu'on a les pêcheurs hollandais qui viennent pêcher avec des matériaux électriques, ça c'est n'importe quoi, enfin, on est des pêcheurs, on n'est pas des... Là ils vont tuer une filière artisanale, enfin, c'est catastrophique.
Voilà une 50aine de bateaux qui sont en train de rentrer au port ici au Havre. Ils étaient aussi à Cherbourg ce matin mobilisés. Ils vont maintenant s'inviter à un sommet de la mer au Havre avant d'être reçus cet après-midi par les autorités locales.
12h38, merci d'être avec nous dans Europe Midi. Restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on ira rejoindre Lionel Gougelot, notre correspondant dans le Nord. Un drame s'est produit à Bouzbek, c'est près de Lille. Un maraîcher de 70 ans a été victime d'un homejacking. Il est mort, c'est un cambriolage qui a mal tourné. À tout de suite.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1. Europe Midi.
Romain Desarbres.
Il est 12h41, un drame donc à Bouzbek, c'est près de Lille. Un homme de 70 ans, très connu sur le territoire, a été tué par balle cette nuit lors d'un cambriolage, ça s'appelle un homejacking. On part tout de suite dans le Nord retrouver Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Romain.
Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé ?
Ben écoutez, les circonstances doivent être encore précisées par les enquêteurs de la police judiciaire de Lille qui sont toujours sur place, mais le scénario qui se dessine, c'est que les cambrioleurs se seraient introduits dans cette maison située dans une zone pavillonnaire de campagne au nord de Lille, à la frontière belge très exactement. Ils auraient surpris le couple dans son sommeil et devant la résistance du septuagénaire, l'un d'eux aurait tiré sur la victime avant de s'enfuir avec ses complices en portant une somme évaluée à 700 euros. Les secours arrivés sur place en pleine nuit n'ont rien pu faire pour sauver ce commerçant, un maraîcher installé dans la commune et vous l'avez dit bien connu depuis de longues années. Son épouse, elle, est indemne mais profondément choquée. Ce petit quartier d'ordinaire très tranquille est bouclé par la police pour l'enquête de voisinage. Le domicile du couple est investi depuis ce matin par les enquêteurs et les spécialistes de la police scientifique à la recherche d'indices ou de traces qui pourraient les mettre sur la piste des agresseurs meurtriers mais pour l'heure sans résultat.
Quelle tragédie. Merci beaucoup Lionel. Lionel Gougelot en direct de Lille pour Europe 1.
Europe Midi. Midi 30, 13h. Romain Desarbres.
12h42, la politique. Éric Zemmour s'est envolé pour la Hongrie. Il doit rencontrer le Premier ministre Viktor Orban et participer à un colloque sur la démographie. La démographie, c'est un thème capital pour l'avenir de l'Europe et de la France. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait déjà écrit dans une tribune en 2019 que c'était la démographie qui faisait l'histoire. Alexandre Chauveau, bonjour. Service politique évidemment d'Europe 1. En rencontrant Viktor Orban, l'hypothèse de la candidature d'Éric Zemmour prend encore un petit peu plus d'épaisseur. Hein.
Oui, même si ce n'est pas la première fois que l'essayiste se rend à Budapest. Il y était déjà en 2019 à l'invitation du même Viktor Orban. Mais vous avez raison, cette année le contexte est complètement différent et le déplacement prend des allures de rencontre diplomatique. Les deux hommes échangeront en tête à tête dans le palais du Premier ministre hongrois, alors qu'Éric Zemmour saluait cette semaine, je cite, « un dirigeant qui défend l'identité de son pays, sa souveraineté et ses frontières, des valeurs qu'il souhaite imposer dans le débat public en France, tout comme le sujet de la démographie, question cruciale pour Éric Zemmour, qui aime à citer Auguste Comte. La démographie, c'est le destin », déclarait le philosophe du positivisme. À Budapest, le thème du sommet est clair, encourager la natalité européenne par opposition à la solution de l'immigration. Éric Zemmour prendra la parole cet après-midi, au milieu de chefs d'État et de premiers ministres européens. Dans l'Assemblée également, Marion Maréchal, avec qui l'essayiste partage des idées communes. Si Éric Zemmour fait encore durer le suspense sur son ambition pour 2022, ce déplacement en Hongrie ressemble à s'y méprendre à une étape de plus sur la route de l'Élysée.
Alexandre Chauveau, merci beaucoup Alexandre pour ces informations. Il est 12h44, écoutez bien ce chiffre, 86 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leurs compagnons ou anciens compagnons. Je tenais à vous parler de ce dispositif innovant mis en place par le ministère de la Justice. Des casques de réalité virtuelle pour lutter contre les violences conjugales. Ils vont être testés pour créer un électrochoc psychologique chez les auteurs de violences. Une sorte de déclic, Marion Dubreuil. Hein.
Oui, l'idée c'est de se mettre à la place de l'autre. Le système de l'immersion grâce à un casque vision 3D est déjà utilisé dans la lutte contre le harcèlement. Par exemple, Guillaume Clerc, patron de l'entreprise Reverto, a développé un film tourné en 360 degrés sur les violences conjugales.
Tout est autour de la salle à manger, autour d'une vie de famille.
Tout va bien ?
Tout est parfait.
Au début, on est dans la phase de lune de miel, et puis petit à petit, on a des premières tensions.
Tu me parles pas comme ça, tu te fermes ta gueule !
Et jusqu'au drame. C'est se mettre à la place de la victime, comprendre ce qu'elle peut vivre.
Pour le moment, ce programme est expérimenté à toute petite échelle, en prison, à Villepinte, Lyon et Meaux, sur 28 prévenus ou condamnés pour violences conjugales, comme nous l'explique Géraud Labrosse du ministère de la Justice.
Ils doivent être consentants. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a voulu sélectionner des personnes où il y a un fort risque de récidive. Cet outil, il va permettre en fait derrière une discussion avec les conseillers d'insertion et de probation.
Le programme a déjà coûté 117 000 euros et peut être généralisé à raison de 500 euros par casque si l'expérimentation fait ses preuves d'ici 3 mois.
12h45, on va parler football à présent. Les décisions attendues de la commission de discipline de la Ligue après les incidents d'Angers-OM ce mercredi soir. Vous savez, on en a parlé dans Europe Midi et sur Europe 1. Évidemment, réunie en urgence, la Ligue a décidé de sanctionner immédiatement les supporters des deux clubs, hein, Jean-François Pérez.
Oui, c'est une sanction logique qui a été prise vu le contexte très tendu de ces dernières semaines. La tribune Coubertin du stade d'Angers restera fermée jusqu'à nouvel ordre à titre conservatoire. Située derrière l'un des buts, elle accueille à la fois une partie des supporters angevins et ce qu'on appelle le parquage visiteur, autrement dit les supporters adverses. C'est de là qu'étaient partis les incidents d'après-match, des jets de projectiles et vraisemblablement de bombes agricoles qui avaient poussé les deux clans à envahir le terrain et en découdre sur la pelouse. Cette tribune sera donc vide pour la réception de Metz dans 10 jours. Les autres pourront continuer d'accueillir du public. Mais c'est la deuxième décision de la soirée qui risque de faire couler le plus d'encre. Les supporters marseillais, qui estiment avoir répondu à des provocations, ne pourront plus prendre place dans leur partie de tribune lors des prochains matchs à l'extérieur. Là aussi, à titre conservatoire, ce sera le cas à Lille le 3 octobre où le parquage visiteur sera fermé. Les sanctions définitives seront rendues 3 jours plus tard, le 6 octobre, après la remise du rapport d'enquête. Elles pourraient être encore plus sévères.
12h46, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Deux sujets à suivre. On va parler du médecin de Francis Cabrel. Enfin, Francis Cabrel qui justement n'a pas de médecin, qui lance un appel. C'est le sujet du désert médical dans son village d'Astafor. Vous allez tout comprendre dans un instant. Et puis on va parler également de ce nuage issu du volcan des Canaries qui est arrivé en France. Est-ce qu'il est dangereux? Tiens, je poserai la question à un ancien de Météo France, spécialiste de la météo, Pascal Bourreau. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h49, on peut être l'un des plus grands vendeurs de disques en France et avoir des difficultés pour trouver un médecin. Francis Cabrel lance un appel pour qu'un médecin s'installe dans son village d'Astafort, c'est dans le Lot-et-Garonne. Le médecin qui s'installera d'ailleurs, notez-le, aura l'honneur de soigner Francis Cabrel, c'est pas rien. Stéphane Place, Francis Cabrel lance son appel dans une vidéo sur Internet, hein.
Oui, mise en ligne hier sur YouTube, ce clip de 2 minutes 30 vante, avec des témoignages d'ailleurs des habitants, la vie paisible que l'on mène dans le village d'Astafort. Une vidéo rythmée par un air de guitare et une voix effectivement que l'on reconnaît tout de suite.
Astafort, bourgade dynamique lovée au cœur du sud-ouest.
C'est bien Francis Cabrel qui s'est prêté au jeu et qui apparaît dans ce petit film qui n'a qu'un but, convaincre un médecin de venir s'installer à Astafort, 2000 habitants.
Astafort, c'est un petit paradis, il y a l'océan et la montagne à 2 heures.
Pourtant, une ombre plane sur le village. Il manque un médecin généraliste.
Comme il en manque malheureusement dans beaucoup de régions, à la campagne, d'où la mobilisation des soignants de la maison de santé d'Astafort que préside Sophie Masse-Chevalier.
Il ne reste plus que 2 médecins généralistes, dont un qui souhaiterait vraiment faire valoir ses droits à la retraite. Ce n'est absolument pas suffisant. C'est de là qu'est venue l'idée du clip. Donc évidemment, on a pensé tout de suite à Francis Cabrel et il a évidemment très gentiment accepté de nous aider.
La famille Cabrel et de nombreux habitants participent donc à ce clip plein d'humour, clip déjà vu près de 8000 fois sur YouTube ce matin.
Excusez-moi, je cherche... Non, je cherche le nouveau médecin.
Voilà, Francis Cabrel, donc, qui cherche un médecin avec ça, dans sa commune d'Astafort, dans le Lot et Garonne. Voilà, avis aux intéressés. On va parler à présent de ce nuage, le nuage issu du volcan des Canaries. Vous avez peut-être vu les images à la télé. Le nuage est arrivé en France, dans le sud. Bonjour, Pascal Bourreau.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste de la météo, ancien de Météo France. J'ai beaucoup de questions à vous poser sur ce nuage qui intrigue. Quand on parle déjà de ce nuage, on parle de quelle altitude ?
Alors le nuage se situe autour de 5000 mètres d'altitude, c'est-à-dire à 5 km au-dessus de nos têtes, et il est en train d'aborder le sud de la France.
D'accord. Là, il est, pour l'instant, où est-ce qu'il se trouve exactement ? On sait à peu près ?
Alors, on le détecte à peu près entre les Pyrénées et le Roussillon, avec un déplacement vers l'ensemble de l'Occitanie et le pourtour méditerranéen qui va se produire dans les heures qui viennent. Et ce nuage va continuer son déplacement vers l'est et ne plus intéresser le territoire à partir de demain soir.
D'accord. Ça veut dire que si le volcan continue à être en activité, ce qui semble devoir se produire, on parle d'une activité pendant encore une bonne dizaine de jours, Le nuage va continuer à passer au-dessus de la France ?
Alors, il passe actuellement parce qu'on a un régime de vent de sud-ouest en altitude. Mm-hmm. Mais à partir de samedi soir, on va passer en régime d'ouest. Ce qui fait que le nuage va se déplacer vers l'Italie. Il n'y aura plus ces remontées qui proviendraient des Canaries, comme en ce moment. On aura des masses d'air qui viendront du golfe de Gascogne. Donc, en conséquence, il n'y aura plus du tout de survol de notre territoire.
D'accord. Qu'est-ce qu'on sait de sa dangerosité ?
Alors, le nuage s'est formé à peu près à 3000 km hein, du territoire de la France. En conséquence, la masse d'air comporte quelques gaz issus de l'éruption volcanique, mais de façon très diluée. Alors, le seul gaz qui pourrait poser problème, c'est le dioxyde de soufre. Mais vu la distance et l'altitude, il n'y a aucun risque de retomber au niveau du sol sur notre territoire français. Et malgré les précipitations qui ont eu lieu en abondance, d'ailleurs, sur le sud de l'Espagne, il y a quelques heures et quelques jours, il n'y a pas eu de détection d'anomalies dans les mesures de l'atmosphère.
D'accord. Il n'y a aucun risque parce que c'est la saison et qu'il fait encore chaud, ou il n'y aurait aucun risque, quelle que soit la saison ?
Absolument, hein. Il n'y a aucun risque parce qu'il n'y a pas de concentration suffisante. Mmh. C'est suffisamment dilué, ça reste en altitude et l'impact pour nous sera complètement insensible sur les 48 heures qui viennent.
Ça, c'est très intéressant. Une dernière question, pas de danger pour les avions comme ce qu'on avait vu avec le volcan islandais ?
Alors, il n'y a aucune mesure avec l'éruption du Qumra Viare parce que les quantités rejetées dans l'atmosphère sont très très faibles par rapport à ce qu'on avait connu effectivement en avril 2010 avec énormément de cendres qui avaient cloué au sol une grande partie des avions sur le nord de l'Europe.
On s'en souvient tous. Merci beaucoup pour ces propos rassurants, Pascal Bourreau. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Très bon après-midi.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
La météo avec Anissa Haddadi, du beau soleil pour terminer la semaine, Anissa.
Et il va falloir en profiter, Romain. Alors, je ne veux pas être l'oiseau mauvais augure pour ce week-end, mais ce sera quand même bien moins agréable sur l'ensemble du pays. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les grisailles de ce matin se sont dissipées. Ça y est, le soleil s'est installé sur l'ensemble des régions. On a quelques cumulus de beau temps dans le nord-ouest, entre la Bretagne et la Normandie. Quelques petites gouttes très légères sur les côtes de la Manche. Et puis, dans le sud-ouest, en Occitanie, sur la Nouvelle-Aquitaine, on a un ciel un petit peu plus voilé. C'est par le sud-ouest, hein, demain, que va arriver la dégradation orageuse. Donc profitez bien de ce beau temps aujourd'hui, puisque le soleil brille sur l'ensemble des régions. On a un léger vent d'est qui souffle sur la Corse. Mais sinon, vraiment rien à signaler. Des températures en hausse en plus. Hein, 21-25 degrés sur la moitié nord cet après-midi. 26 à 30 dans le sud. Hein, jusqu'à 30 degrés pour Ajaccio. 28 à Marseille. 23 pour Sochaux et Nice, 22 degrés à Paris et 21 à Lille. Je vous le disais, dégradation orageuse qui arrive par l'ouest demain et dimanche, un temps humide sur l'ensemble des régions.
Donc on va en profiter cet après-midi. Merci beaucoup Anissa. 12h56 dans un instant, c'est La France Bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi à vous sur Europe 1.